toutes et à tous, Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association des radioamateurs du Val d'Oise, l'ARAM 95, pour nous faire découvrir cette activité avant tout scientifique qui permet d'établir des liaisons hertziennes avec les radioamateurs du monde entier. J'accueille ce matin F4IEW et F4ANS. Merci de comprendre. Franck Durand, président de l'ARAM 95.
Bonjour.
Et Aurélien Barraud, membre du CA et particulièrement investi dans tout ce qui touche la sécurité civile. Vous allez nous raconter pendant l'émission.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord de découvrir nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Franck et Aurélien nous présenteront plus concrètement ce que fait l'ARAM 95. Et en dernière partie d'émission, vous nous parlerez de votre futur événement qui aura lieu le 1er novembre prochain et qui se passera au Château de la Chasse. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si vous en êtes d'accord, bien sûr.
Oui, bien sûr.
C'est parti. Eh bien, avant de parler de ce que vous faites au sein de l'ARAM 95, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Franck?
Ah, oui, vous me donnez la parole, merci. Bonjour à tous. Effectivement, alors moi, je représente aujourd'hui l'association en tant que président, mais personnellement, bien sûr, j'ai une activité professionnelle. Je suis pas encore retraité, loin de là. Mon parcours est essentiellement dans l'électronique médicale. J'ai occupé différents postes comme technicien au départ, mais commercial, chef produit international, directeur commercial. Aujourd'hui, depuis 5 ans, je formais des personnes en situation de handicap dans le domaine de l'électronique, donc à un niveau BTS. Ça vient de s'arrêter parce que j'ai un projet et je suis en train de monter un organisme de formation ce mois-ci, justement au mois d'octobre. Voilà, donc c'est une nouvelle orientation. Et puis je suis très investi dans la vie associative et pas que. Notamment, c'est vrai, à travers l'association des radioamateurs, mais aussi j'ai quelques mandats quand j'étais chef d'entreprise et j'ai gardé des mandats à la Chambre de commerce, donc je suis élu. Également président d'une caisse de crédit mutuel dans le Val d'Oise. Donc tout ça m'occupe énormément. Ben voilà, vous en savez plus sur moi.
Merci Franck. Aurélien, qui êtes-vous?
Bonjour à tous. Donc Aurélien Barraud. Moi, je suis en fait directeur de projet chez un opérateur Orange, donc Orange Business, la filiale. Je réalise le suivi et le déploiement de solutions de centres d'appel pour différents clients, des grands comptes français principalement. C'est vrai qu'après mon parcours professionnel, est par contre tracé presque, parce que je suis rentré dans le milieu du centre d'appel juste à la fin de mon DUT. J'en suis pas sorti, à part travailler dans une association pendant 2 ans, les 2 années qu'on suivit après mon DUT, et puis depuis je parcours SS2I, placé chez des clients en mission, et actuellement depuis 2 ans salarié chez Orange. Voilà principalement mon parcours professionnel pour ma part à mon niveau.
Merci Aurélien. Alors tous les deux, quand est-ce que vous avez et quelles ont été vos motivations à rejoindre l'association l'ARAM 95, avant de nous expliquer comment a été créée cette association? Mais Aurélien, comment vous êtes rentré? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez entendu parler de l'association et vous vous êtes dit, allez, je deviens adhérent?
Alors, oui. Après, il faudra reprendre un petit peu le parcours potentiellement, par rapport à l'activité radio. Moi, j'étais radioamateur l'âge de 18 ans. Et puis après les études faisant, j'ai arrêté un petit peu la radio, parce qu'il faut trouver le temps à cette époque-là, mais on aura peut-être l'occasion de revenir plus tard dans l'émission. Il fallait payer une licence pour pouvoir avoir le droit d'émettre sur les ondes. Donc j'ai complètement arrêté. Et puis merci le Covid finalement, puisque à ce moment-là, on ressort plein de cartons, tout le matériel des cartons. En 2000, 2020, j'ai recommencé mon activité radio et j'ai regardé un petit peu du coup ce qu'il y avait autour de chez moi, dans le 95 à Cergy, et c'est là où je suis tombé sur la RAM qui du coup faisait une activité château. Donc on en parlera également, mais voilà, c'est des rassemblements et donc il y avait une activité château ce jour-là, et bien, donc du coup je suis allé et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré pour la première fois Franck et donc du coup les différents membres de l'association.
Voilà. Et vous Franck alors?
Alors moi effectivement donc j'avais débuté il y a très longtemps l'écoute essentiellement et puis activité professionnelle intense faisant j'avais un peu mis tout sur le côté, jusqu'en 2017, où j'ai commencé à m'intéresser à l'écoute. Déjà à l'écoute, parce que j'avais pas de licence radio amateur, il faut une licence pour être radio amateur. Et c'est à ce moment-là que j'ai adhéré à l'association des radio amateurs du Val d'Oise. Le président à l'époque, c'était Marcel Chailloux, qui est malheureusement décédé d'un accident domestique. J'ai démarré parce que j'ai commencé à acheter un appareil, ce qui m'a mis en relation avec un radio amateur qui était d'ailleurs éloigné et qui m'a accompagné, qui m'a conseillé, etc. Et puis il m'a donné envie quand même de passer la licence, surtout que j'avais le côté électronique qui était nécessaire. Et puis voilà, j'ai passé ma licence en novembre 2018. Hein, donc c'est pas si vieux. Et comme je vous disais, malheureusement, donc la RAM, on en parlera peut-être, est une association ancienne, mais moi je suis président que depuis, je me souviens plus trop, mais quelques années, parce que effectivement, depuis 2021 pour être exact, Marcel est tombé chez lui et s'est retrouvé dans le coma et est décédé très vite, et il fallait que quelqu'un reprenne l'association, et bien malheureusement, personne ne voulait le faire. Et donc, soit ça s'arrêtait, ou soit une âme dévouée, c'est comme ça que je suis devenu président. Et puis là, on essaye de redynamiser avec notamment des jeunes, des nouvelles entrées, la préparation à la licence, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Tout à fait. Alors avant de parler de licence et même concrètement ce que vous mettez en place, c'est peut-être un sujet complètement inconnu pour certains auditeurs. En tout cas, moi, ça l'était pour moi. Quand vous dites, Aurélien, vous avez dit « moi j'étais radio amateur », c'est quoi être radio amateur? Juste pour qu'on comprenne, et ensuite on va forcément vous allez illustrer de plein d'exemples. Mais c'est quoi être radio amateur?
Ah, c'est une très bonne question du coup par rapport à ça. Radio amateur, c'est une personne qui va qui aime l'électronique, qui fabriquait même ses postes. Enfin, historiquement, les radio amateurs fabriquaient leurs postes. Aujourd'hui, on va les acheter plus couramment. Mais être radio amateur, c'est pouvoir discuter avec des gens à travers le monde, soit en utilisant la phonie, soit en utilisant des modes de transmission beaucoup plus anciens, comme le Morse, par exemple. Et puis plus couramment, là, depuis une quinzaine d'années, des modes de transmission numériques qui permettent, potentiellement même de faire passer des mails à travers, les ondes hertziennes et pas la fibre comme on a l'habitude de l'utiliser.
Merci, c'est très clair. Mais alors ça vous vient d'où, à tous les deux, cet attrait pour les radios amateurs?
Mais moi, je me le demande encore au final.
Moi, n'y connaissant rien, je trouve que ça fait un peu service secret d'initié. Qu'est-ce qui vous plaisait? C'est d'être en contact avec des gens du monde entier par des biais différents
ou... Alors, je pense que moi, personnellement, on n'a pas tous. En fait, le radioamateurisme, c'est extrêmement large. Ça va de la radioastronomie, parce que la radioastronomie, ça peut être souvent des radioamateurs, puisqu'en fait, l'astronomie, c'est essentiellement des ondes radio. Donc, on y retrouve beaucoup de radioamateurs, jusqu'aux concours ou aux activités sportives, dont on parlera. C'est, je pense, d'abord expérimenter des techniques de transmission. Donc, c'est-à-dire, c'est mettre au point des antennes, travailler sur la théorie, la pratique, la mise en œuvre d'antennes de transmission, mais aussi du matériel, des modifications. Ça va aussi jusqu'à l'informatique avec la programmation de certains protocoles ou l'utilisation de ces protocoles pour, comme il a été dit, transmettre des emails, transmettre des images. Et puis c'est vrai, c'est aussi établir des liaisons radio avec d'autres personnes radio amateurs qui sont dans le monde entier, qui sont très loin, qui peuvent être à New York, qui peuvent être en Chine, qui peuvent être en Corée du Sud, mais aussi nos voisins européens. Et tout ça, ça nous est offert sans barrière. Alors bien sûr, il y a des codes, hein, on dit pas n'importe quoi, on en parlera, j'en suis sûr. Sans oublier les contacts radio avec ARIS notamment, c'est-à-dire la Station Spatiale Internationale où il y a toujours un radio amateur. Et puis également, ça Aurélien pourra en parler mieux que moi, le QO100, enfin tout ce qui est satellite, géostationnaire et défilant, parce qu'il faut savoir que les radio amateurs ont pas mal de satellites dans l'espace qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, qui ont été certifiés et mis à bord de certaines fusées qui nous permettent de communiquer. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien.
Oui, je rajouterais un mot. En fait, c'est aussi expérimentation, puisque du coup, c'est vraiment c'est la découverte. Voilà, Franck disait voilà qu'on par rapport à la réalisation et autres éléments. Donc voilà, l'expérimentation, la découverte et la capacité finalement à repousser les limites, parce que En informatique, on va dire, avec la FIB, c'est simple de parler avec un Australien. Nous, un jour, on va y arriver, et puis un autre jour, ça va pas passer. Voilà, c'est complètement
oui, parce aléatoire. Que ça dépend vraiment des conditions atmosphériques, enfin ionosphériques essentiellement. Donc, c'est l'activité du soleil, la ionisation des couches ionosphériques, et tout ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle la propagation des ondes électromagnétiques dans la bande HF, c'est-à-dire haute fréquence. Et on dépend de tout ça. Et un jour, on peut faire des contacts merveilleux à l'autre bout de la planète, et le lendemain, il se passe rien.
Donc il y a une notion aussi de challenge et de suspense, alors, quand je vous écoute.
Carrément.
Alors, en introduction, je vous ai présenté par vos indicatifs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un indicatif, déjà, et pourquoi vous en avez un? À quoi ça sert?
Tu vas nous le dire.
Ouais, alors, du coup, donc, Foxtrot 4 Alpha Novembre Sierra, donc, en fait, qui est mon indicatif, donc, éplé avec l'alphabet international. Alors, un indicatif, donc, du coup, est fourni par l'État, puisque, du coup, le radioamateurisme, on doit passer une licence pour avoir le droit d'émettre sur les bandes qui nous sont attribuées. Et donc, l'indicatif va permettre de nous identifier de manière unique, personnelle, on va dire, à travers le monde. F, parce qu'on est en France. 4, parce que du coup, ça faisait historiquement partie, on va dire, d'une classification de licence. Maintenant, on n'a plus qu'une seule classe de licence en France. Et puis ANS, bon, on va dire, c'est comme la plaque d'immatriculation sur une voiture, c'est la fin, voilà. C'est au hasard, non, en fait, c'est vraiment donné par ordre, on va dire, alphabétique, hein. Et donc voilà, donc le 4 est arrivé dans les années 95, les premiers F4, et donc du coup moi ma licence date de 96, donc voilà.
Et alors tous les radioamateurs ont un indicatif du coup?
Ah, obligatoirement. On ne peut pas, en fait, on bénéficie d'énormément de créneaux de fréquences qui vont de quelques centaines de kilohertz jusqu'à plusieurs dizaines de gigahertz. Hein. C'est juste énorme. Et on est, en fait, à chaque fois qu'on intervient ou qu'on active certaines fréquences, on est dans l'obligation de s'identifier, un petit peu comme quand vous prenez la route, vous avez une plaque d'immatriculation, et on doit pouvoir être identifié à tout moment.
Merci beaucoup Franck et Aurélien d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de découvrir plus concrètement ce que propose votre association juste après avoir écouté Pierre Garnier et Matt Pokora chaque seconde. À tout de suite sur IDFM.
Je voulais te le dire, j'ai fait le tour de la terre et j'ai rien trouvé de mieux. Et ça va te faire rire, parce que tu le savais déjà, mais tu me voyais heureux. J'ai pas voulu m'enfuir, j'avais besoin de temps et je suis pas doué pour les adieux. Maintenant, je peux te dire ce que je veux. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Je vois l'avenir.
Avec toi un peu de voyage et des souvenirs heureux. Je veux plus jamais me mentir. Je sais que c'est toi si tu m'aimes encore un peu. On pourrait s'enfuir, mais cette fois j'aimerais qu'on le fasse tous les deux. J'espère que tu vas me dire qu'on peut. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Jamais, jamais, jamais j'avais autant cherché ce que j'ai déjà. J'ai regardé dans tes yeux et je me suis vu pour la première fois. J'ai parcouru le monde, j'ai vécu chaque seconde. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les âges sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouverait. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations. Nous recevons ce matin Franck Durand et Aurélien Barraud de la RAM 95. Alors, vous nous avez expliqué juste avant la pause que les radios amateurs permettent de créer des connexions avec le monde entier grâce à la radio et par la même occasion d'acquérir aussi des connaissances spécifiques, techniques dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer également, pourquoi pas, des liens d'amitié entre amateurs de différents pays. Alors concrètement, la RAM 95, comment ça prend forme sur le département ou dans le monde entier ?
Bah, juste la RAM 95, elle a... j'étais pas là quand elle a pris forme déjà, donc je vais pas pouvoir tout vous dire là-dessus. C'est quand même une association qui date des années 70, début 70, donc c'est assez ancien. Il faut savoir qu'on a une association nationale qui s'appelle le Réseau des émetteurs français. Et à l'époque, dans chaque département, il y avait, c'était une fédération d'associations en fait. Et ça a changé. Alors la date exacte, ça a changé, je me souviens plus trop. Et c'est ce qui a donné naissance à l'association des radioamateurs du Val d'Oise 95, puisque dans chaque département, les associations sont devenues indépendantes, mais elles représentent tous les radioamateurs de leur département. Donc elles sont adhérentes au réseau des émetteurs français qui défend la cause française auprès d'instances ou d'autres associations fédératives internationales. Et donc, quelque part, à l'époque, c'était plutôt un rôle de fédération d'associations aussi sur le Val-d'Oise. Il y avait d'autres associations, on a F5KES, on en avait une autre aussi dans le...
C'est comment ça ? FUT-KGL.
Ouais, FUT-KGL, etc. Donc, il y a, voilà. Alors, aujourd'hui, ces associations existent encore, bien sûr, mais chacun développe un petit peu ses... je dirais,
ses propres actions, ses propres projets.
Et alors nous, on n'est plus que fédérateurs, c'est-à-dire que maintenant on fait vraiment des activités, je crois qu'on pourra en parler là tout de suite, même les journées des châteaux par exemple, qui sont l'activation radio pour mettre en valeur chaque année un lieu, et notamment les châteaux. Alors ça existe aussi pour les forts, ça existe pour les lavoirs, ça permet de faire connaître un petit peu un lieu sur le plan national à travers le radioamateurisme, mais c'est aussi ce qu'on appelle des activations. Alors on vous parlera du JOTA, SOTA et WFF. D'ailleurs, tu peux peut-être en dire un mot de ces activations que l'on fait.
Oui, donc en fait ce type d'activation, on va dire plutôt ce type de programme, puisqu'en fait ce sont des programmes qui ont été mis en place, on va dire, pour sortir les radioamateurs de chez eux. Parce qu'on en parlera tout à l'heure également, je pense, sur tout ce qui est matériel. Souvent, en fait, c'est du gros matériel, faut des grosses antennes. Et donc, du coup, les gens sont quand même enfermés chez eux par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a depuis les années 2000, je n'ai plus les dates exactes, mais en tout cas, voilà, il y a des programmes qui ont été mis en place un peu de manière nationale. Et le SOTA, donc le Summit on the Air, faut comprendre, aller en haut d'une montagne poser son antenne, prendre son équipement et essayer d'émettre pour avoir des gens à travers le monde, mais dans un lieu qui est complètement, on va dire, en pleine nature.
À titre indicatif, par exemple, cet été, moi j'ai fait 3 sommets en Haute-Savoie, donc on part avec le sac à dos, l'équipement qui est autonome, la batterie, tout dedans. Alors bien sûr, on s'arrange pour avoir des batteries nouvelle génération, c'est-à-dire beaucoup d'énergie dans peu de volume.
Voilà. Un peu plus légère.
Et puis bah voilà, on monte à 2000 mètres, on installe son antenne, on fait ses contacts pour valider en fait. Il y a une validation, c'est un concours qui est français et international. Et bah voilà, on peut faire ça, c'est aussi un loisir. Je t'ai coupé la parole.
Non, non, mais pas de souci. Et donc du coup voilà, oui, donc Franck a fait des SOTA, mais il existe plein d'autres programmes en fait qui existent donc dans le milieu de la radio. Donc le SOTA est l'un des premiers avec ce qu'on appelait aussi les IOTA, les Island on the Air. Donc en fait, avant voilà, les gens allaient sur des petites îles qui étaient considérées et référencées pour justement faire de l'émission de radio. Et puis au fur et à mesure, il y a plein d'autres programmes qui sont arrivés. Bah, les POTA, les activités de parc, le WFF qui va également de pair. Donc là, ce sont des parcs. Tout ce qui est lieu naturel référencé, en fait, est considéré dans ce programme. Et puis on va trouver, tout à l'heure, Franck parlait des châteaux, mais également des phares. Des moulins, enfin voilà, il y a plein de petits programmes et c'est vrai que moi je suis allé faire 2 phares le week-end dernier par exemple et du coup les gens déjà s'interrogent, mais pourquoi il y a un long fil qui traîne, qu'est-ce que vous faites avec votre radio et votre casque, donc on explique rapidement ce qu'est le radioamateurisme en quelques mots et surtout quel est l'intérêt. Bah voilà, on est sur un lieu qui est considéré référencé et puis on espère que les gens iront après se documenter également par rapport à ce lieu et prendront des connaissances. En tout cas, moi, en tant qu'activeur, souvent, ce que j'essaie de faire après, c'est ce qu'on appelle une petite QSL. En fait, c'est comme une carte postale. Et donc, les gens, au moment pour valider en fait le contact, vont pouvoir recevoir ma QSL qui correspond au lieu. Donc, je prends une photo du lieu avec potentiellement un petit lien sur un site internet qui explique le lieu.
Alors, je voudrais peut-être juste rajouter quand même que c'est pas, il y a aussi notamment les projets scientifiques, parce que ça on n'en parle pas tout le temps, c'est une autre branche. On a certains radioamateurs qui prennent jamais le micro. Ils ont la licence pour pouvoir utiliser les plages de fréquence pour faire des expérimentations scientifiques. Et l'expérimentation scientifique, elle est bien souvent citoyenne. Ça c'est en collaboration avec des universités internationales, puisque les radioamateurs ont l'habitude de faire des mesures rigoureuses. Ils sont habitués à faire des mesures de radiofréquence, etc. Et certaines universités, comme par exemple des campagnes d'études sur les éclipses, ont demandé à tous les radioamateurs au niveau mondial, bien sûr à ceux qui souhaitent y participer. Donc il y a un protocole de recherche qui est mis en place. Les radioamateurs participent par des enregistrements réguliers avec, je dirais, des normes bien précises, pour que ça puisse être utilisé dans le cadre de la science, et ces données sont remontées de chaque pays vers l'université centrale qui va faire une publication, et ça m'a donné d'ailleurs lieu à participer à des publications de recherche, mais qui sont, je dirais, nous on est bénévoles, mais sans nous, elle ne pourrait pas avoir lieu parce qu'en fait, ils n'auraient pas les moyens ni la capacité, la possibilité de financer autant de points d'enregistrement sur toute la planète pour faire des observations. Donc ça fait partie aussi d'un exemple concret de science citoyenne.
Et alors, est-ce que ça veut dire que si un jour dans le monde, il n'y a plus Internet, il n'y a plus le téléphone, est-ce qu'on peut communiquer quand même grâce à vous ?
Bah carrément, parce qu'en fait, on est, tous les radioamateurs sont entraînés à mettre en place un système de communication de voix en fait, pour parler ensemble, mais pas que, on l'a dit, le numérique, mais il y a une branche qui est particulièrement dédiée à ça, c'est une partie de nos radioamateurs qui sont dans une autre association qui s'appelle l'ADRASEC, et moi j'en fais pas partie, mais Aurélien tu peux en parler parce que t'en fais partie.
Oui, tout à fait. Donc en effet, les ADRASEC sont donc des associations départementales de radio amateurs mis à disposition de la sécurité civile. Donc on a, en fait, dans cette branche, du coup, on est là vraiment pour intervenir en cas de, en fait, crash d'avion, par exemple, alors plus tout ce qui est aéronef, les petits avions liés à la la partie civile, hein, pas les professionnels. Et donc du coup, il y a des balises dans chaque avion qui émettent sur une fréquence bien précise. Et donc on est formé et entraîné pour essayer donc de retrouver la balise. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un plan qu'on appelle un plan SATER qui est déclenché, donc ça veut dire qu'un avion crash et donc du coup on n'a plus d'informations que l'avion, enfin il donne plus signe de vie, donc du coup on est déclenché en fait par le préfet et d'autres organismes liés à l'aéronautique et donc du coup on va aller rechercher en fait sur le terrain ces balises qui sont enfin la balise du coup de l'avion qui essaie d'émettre pour essayer de la retrouver. Et donc tout ça, on a des entraînements en fait. Au cours de l'année, on a au minimum 4 entraînements par an pour justement, y a des balises qui sont cachées par, on va dire, une personne. Et donc, du coup, le reste du groupe va aller essayer de retrouver la balise sur un terrain qui est identifié.
Mais il me semble qu'il y a aussi les balises de randonnée, ça ne s'arrête pas aux avions. Puis vous faites des entraînements avec le SAMU, les pompiers, la préfecture, c'est ça?
Oui, après, voilà, ça peut être beaucoup plus élargi, c'est pas tous les ans, mais enfin, voilà, il y a également, en effet, il y a quelques années, un entraînement justement également un métro, enfin un RER qui avait eu une difficulté, et donc du coup il y avait eu des actions souterraines, parce que du coup même si ce sont des ondes, on parle souvent d'extérieur, on peut aussi émettre les ondes par des moyens bien précis, en souterrain quoi.
Bon, alors les radios amateurs ont un pouvoir immense, j'imagine qu'il y a une réglementation mondiale peut-être ou propre à la France?
Elle va être différente en fait par pays.
Deux, ouais.
On est rattaché en fait à des organismes qui s'appellent IARU, et en fait il y a 3 régions en fait dans le monde. Nous on est dans ce qu'on appelle la région 1. Et donc il y a déjà une réglementation par rapport à la région 1 et un plan de bande. Tout à l'heure Franck parlait des différents, enfin là du grand spectre qu'il y avait au niveau des bandes, et on va pas retrouver potentiellement les mêmes plans de bandes en fonction des régions, mais les bandes principales, tout à l'heure on parlait de la HF, restent elles générales et communes généralement aux trois régions.
Et alors dans cette réglementation, est-ce qu'il y a des sujets interdits? Est-ce qu'il y a un comportement à avoir, une sorte de charte des radios amateurs?
Écoutez, là je crois qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, si on parle avec un Ukrainien, si on parle avec un Russe ou un Chinois ou un Coréen ou quel que soit le pays d'ailleurs, il est bien évident qu'on n'a pas le droit de parler de politique. On n'a pas le droit de parler de sujets sensibles. En fait, grosso modo, on ne parle que de nos activités techniques ou de sciences. Voilà. Mais éventuellement météorologiques, parce qu'il y a aussi toute une partie des radioamateurs qui s'intéressent à la partie météorologique avec les images satellites, avec les ballons sondes, etc. Mais en aucun cas de politique, de commerce, de business. Donc c'est pas... Voilà.
C'est contrôlé, j'imagine. On peut être banni. On peut nous enlever la licence.
Oui, il y a déjà eu des cas comme ça. Hein. En effet, c'est que on est écouté. De toute façon, toute fréquence, on va dire, peut être écoutable dès lors qu'elle n'est pas cryptée. Du coup, il y a déjà eu des perturbateurs, et donc du coup, on revient un peu à une chasse aux perturbateurs, en fait, avec de la triangulation pour identifier la personne qui ne respecte pas, du coup, parce que c'est pas parce qu'on donne un indicatif finalement qu'on donne le bon. Une personne pourrait très bien prendre un mauvais indicatif exprès pour pas se faire repérer. Et donc du coup, par de la triangulation, on arrive à identifier une personne et donc du coup l'arrêter. Enfin, après c'est pas nous, hein, bien sûr. Hein, on se rapproche donc des organismes, en l'occurrence la NFR, l'Agence nationale des fréquences, en fait, qui va du coup faire ce genre d'opération et donc interdire la station.
Il y a pas longtemps, il y en a un qui a été mis en garde à vue, hein, je crois. C'était dans le 78. Son matériel a été confisqué. Effectivement, ça faisait déjà un bout de temps qui perturbait. Localiser une personne, c'est, je vais pas dire que c'est facile, mais les radioamateurs, ils sont habitués, notamment, comme vous l'avez compris, il y en a qui s'entraînent régulièrement pour la recherche justement de balises, mais c'est aussi notre activité dont on parlera tout à l'heure avec les jeunes qu'on veut développer, c'est justement la goniométrie, c'est-à-dire de pouvoir avec différents appareils localiser la provenance d'une source radioélectrique. C'est un petit peu, non pas le quotidien, mais on est formé à ça, et un perturbateur, comme tu disais, par triangulation, l'information, on arrive à savoir d'où ça vient. Puis après, c'est du rôle de l'Agence nationale des fréquences d'intervenir, la gendarmerie, etc.
Ouais. Alors, est-ce qu'on sait combien vous êtes? Alors, dans le Val d'Oise, en France, et j'ose dire dans le monde, est-ce que la France est très en avance ou un peu à la traîne?
Alors là, vous, j'ai un peu honte là parce que là tout de suite, c'est un point sensible. Nous, on fait tout pour justement former des nouveaux radioamateurs. Alors dans le monde, en fait, il y a à peu près 3 millions de radioamateurs. Donc c'est bon, on peut pas dire que c'est beaucoup hein, sur la population, ça, mais c'est pas mal. Et sur ces 3 millions, la France représente 0,5%. 0,5% avec environ 14 000 personnes sur la France. Et si on se compare avec le Japon, qui représente 43% des radioamateurs, et les États-Unis 22,8%, donc presque 23%. Donc vous voyez déjà, entre le Japon et les États-Unis, c'est énorme. Alors en Europe, on a les Anglais qui sont un petit peu quand même meilleurs que nous avec les Allemands. Alors par contre, il y a un autre sujet, c'est les femmes. On n'a pas assez de femmes. Il n'y a que 2% de femmes radioamateurs, en tout cas en France. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Et sur l'Île-de-France, si on prend l'Île-de-France, on est à peu près 1500 en Île-de-France. Alors pour ce qui est du Val-d'Oise, j'ai pas le chiffre exact, je me souviens plus.
Mais est-ce qu'il y a des femmes sur le Val-d'Oise?
Oui, mais pas beaucoup.
Oui. Alors là, je saurais pas dire du coup s'il y a de femmes, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en rencontrer.
Bon, ceci est un appel.
C'est voilà. Ça. Ben on a une, enfin en tout cas on a des femmes écouteurs qui commencent à s'intéresser à ça, mais je pense que c'est culturel avec le métier technique de l'électronique, parce qu'en fait pour passer sa licence, en fait pour avoir l'autorisation, faut passer deux examens. On en a pas parlé, mais il y a un examen qui est technique, donc faut avoir des notions d'électronique, c'est validé par un examen qu'on passe à la NFR, et puis un examen réglementaire, c'est-à-dire comment on doit être conscient de ce qu'on fait et la réglementation. On a aussi un examen réglementaire. Et donc ces deux parties s'organisent, c'est organisé par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, soit lors de rassemblements radioamateurs, parce qu'on a des salons avec, comment dire, des congrès avec des conférences, etc. Donc à cette occasion, ils organisent ce genre de choses, ou dans les associations, ou simplement dans un des centres de l'ANFR en France.
Vous proposez d'accompagner les membres de la RAM 95 à réussir leur...
Ah ben carrément, il faut savoir qu'en fait, déjà, le taux de réussite en 2015, au passage de la licence sur les à peu près 200 inscrits en France en 2015. Donc il y avait 200 candidats, 70% en 2015. Bon, là maintenant, l'idée, ça a un petit peu changé depuis 2015, parce que on a demandé aux associations d'être un peu actifs maintenant dans aussi l'organisation du passage de la licence, c'est-à-dire de ne proposer le passage de la licence qu'à des gens qui ont quand même un peu fait la démarche. On peut pas se pointer à l'examen sans rien savoir. Et nous, ce qu'on fait tous les vendredis, une fois, enfin pas tous les vendredis, mais une fois par mois, déjà, on accompagne des groupes à préparer leur licence. Tu veux peut-être en dire deux mots?
Donc en effet, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois. Et donc du coup, pendant une heure et demie, les personnes qui sont intéressées pour passer la licence viennent donc du coup à nous. Alors on va pas dire que ce sont des cours, parce qu'en effet, on n'est pas dans un modèle cours, mais par contre, on est dans un modèle assistance. C'est-à-dire que si les personnes qui ont révisé, s'ils ont des questions, on vient vraiment du coup les aider, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas bien compris du coup certaines thématiques. Et ce qu'on essaie de faire également, c'est qu'à la fin, on prend une demi-heure sur l'heure et demie, donc pour faire un début de QCM, chose qui se mettront en situation le jour de l'examen.
Je vous propose de continuer notre conversation juste après avoir écouté Si c'était pire des Oufris Maracas sur IDFM.
C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps.
la regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands, de nous voir tous lever tout ce petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps, la barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. Avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant, laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations avec Franck Durand et Aurélien Barraud de l'ARAM 95, association des radios amateurs du Val d'Oise. Alors, on a compris qu'on pouvait faire plein de choses dans le cadre de votre association et en étant radio amateur. Vous nous avez déjà un petit peu parlé du matériel, Franck, notamment dans vos excursions grandes randonnées en haut des montagnes, d'où l'importance, j'imagine, d'avoir un matériel assez léger. Est-ce que ça prend de la place ? Aurélien disait, on a du mal à se déplacer quand même une fois que tout est installé.
Et après, mais moi, je suis pas normand, mais c'est oui et non. Parce qu'on a des pockets, on a des matériels qui sont très petits, même là, on pourra en parler, le satellite est moins encombrant que les bandes HF, parce que les bandes haute fréquence nécessitent des grosses antennes. Mais on peut, déjà faire de l'écoute, c'est-à-dire, même sans licence, on peut déjà commencer à être un peu radioamateur, à faire des échanges, ce qu'on appelle de QSL, donc ces fameuses cartes qu'on échange entre nous, dont on pourra reparler, à partir de 9, 10 euros, allez, 15 euros pour un récepteur numérique qui se met sur un ordinateur. Donc c'est le premier prix, c'est ça, pour recevoir toutes ces fréquences. Après, bien sûr, on a le matériel d'occasion, parce que les radioamateurs sont malheureusement un peu âgés, ils remplacent aussi leur matériel pour acheter autre chose, et il y a le marché de l'occasion. Donc à partir de 200, 250 euros, on trouve déjà des bons récepteurs. Et puis il y a tout un tas d'autres choses. Alors parle-nous-en peut-être un petit peu, parce que moi je suis pas... J'ai pas toute la science infuse non plus.
Moi non plus.
Est-ce que ça prend beaucoup de place dans votre appartement ou maison, alors, Aurélien?
Oui, dans la maison, ça peut prendre vite de la place.
Ah, vaut mieux avoir une maison.
Ou un très grand appartement avec une grande pièce dédiée.
Voilà. Alors, le problème, c'est l'antenne, quoi.
Oui, le vrai problème, c'est l'antenne, parce que finalement, le récepteur ou l'émetteur, du coup, peut être très petit, mais suivant les bandes que l'on va utiliser, on va arriver à des bandes qui peuvent être très importantes. En l'occurrence, tout à l'heure, on parlait des bandes à HF, hein, donc qui est en dessous de 20, enfin qui est à partir de 28 mégas, en dessous de 28 mégahertz. Et donc du coup, là, en effet, ce sont des bandes, des antennes qui sont très importantes. Mais si on revient du coup à un modèle type, je veux faire de l'activité radio plus en me déplaçant, parce qu'on va considérer que dans une maison, en négociant avec madame, il y a toujours de la place dans une pièce. Il faut que ça rentre dans un sac à dos. Sinon, on va pas commencer à prendre les cabas et tout pour faire de la montée sur un sota. Donc du coup, en général, si je prends un exemple qui est purement le mien. J'ai un poste radio qui va être, on va dire, gros comme une boîte de gâteau, quoi. Une batterie et puis un long fil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une antenne qui va se déplier, ce genre de choses. On peut prendre un long fil qui va faire 20 mètres ou deux longs fils qui vont faire 20 mètres et que l'on va, du coup, attacher sur une canne à pêche. Donc oui, je me balade avec une canne à pêche et tout le monde croit, la plupart du temps, parce que je fais beaucoup d'activités près de phares et donc je suis en train de pêcher, mais non. Et j'aime bien dire, je pêche
avec
les ondes.
Avec une technique de pêche
je pêche les ondes, en effet. Et donc j'essaie d'avoir des gens à travers le monde, donc ça surprend les gens. Mais donc voilà, la canne à pêche accrochée sur un morceau de bois qui est rivé au sol ou voilà, en mettant trois bouts de ficelle, et on tire du coup le fil, et ça permet donc du coup d'avoir une antenne qui permet quand même de faire des contacts intéressants.
Après, quand on est juste, comme c'est mon cas, non pas une maison un peu plus grande avec un jardin, on peut mettre une antenne, par exemple, sur les voies HF, et là, j'ai j'ai 35 mètres d'antenne horizontale, donc c'est pas mal. Un mât télescopique qui peut monter à 12 mètres avec une antenne au bout, et puis je pratique aussi la réception sur des bandes très basses, donc ça veut dire au plus les fréquences sont basses, au plus les longueurs d'onde sont très longues, et donc les antennes sont longues. Donc j'ai ce qu'on appelle une boucle au sol qui fait 160 mètres de périmètre.
Sachez-vous, physiquement, il y a 160 mètres.
Carrément, oui. Okay. Mais vous savez, j'en connais qui ont des champs, ces agriculteurs, ils ont pratiquement le kilomètre.
Hein. D'accord, ok, tout est possible.
Mais voilà, on ne peut pas mettre ça en ville.
Mais du coup, en fait, on parlait tout à l'heure de QO100, donc ça va donner un autre exemple. C'est vrai qu'en Île-de-France, des fois, avoir des antennes, c'est pas toujours évident. Même si le radioamateur a le droit à l'antenne, hein, ça fait partie normalement de la loi française. Avec les voisins, c'est toujours compliqué. Hein, si on remonte dans les années 90 avec la CB, par exemple, ou ce genre de choses, les gens, dès lors qu'ils voyaient des antennes, avaient peur que ça perturbe la télé. Bon, donc du coup, tout ça est quand même resté un peu dans les mœurs, si on peut dire. Et donc le QO100, si on en vient du coup à une activité satellite, en fait c'est ni plus ni moins qu'une parabole. Donc du coup, tout le monde a une parabole chez soi. Hein.
C'est plus discret.
Voilà, c'est plus discret. C'est juste que la tête va être un petit peu différente, puisqu'on va, outre recevoir, on va pouvoir émettre avec. Et donc on est sur un satellite dit géostationnaire, qui lui couvre par contre toujours la même partie du globe, hein, puisque du coup il est à 36 000 km, et il va être en gros aux alentours il va prendre de la Guyane jusqu'aux Philippines. Voilà. Donc on a quand même un cercle qui permet du coup de pouvoir dialoguer avec un certain nombre de personnes.
Bon, quand on a tout ce matériel, tout ce savoir, toutes ces connaissances, j'imagine que vous avez une activité de transmission peut-être aux plus jeunes, pour les intéresser au radio amateurisme. Est-ce que vous êtes en lien avec des établissements scolaires?
Oui, mais il faut pas attendre d'avoir tout ce matériel, hein, il faut venir avant. Nous, on le prépare les gens, effectivement, donc comme vous l'avez vu au sein de notre association, mais on fait aussi des activités récemment. Là, on a fait donc au collège Jean Massé à Aubonne, on a pris une journée de notre temps pour intervenir dans l'école, pour prendre deux classes le matin, trois classes l'après-midi. Donc ça fait cinq classes sur la journée, en présentant des activités de réception d'images satellites. On a fait une transmission entre une grande salle où il y avait une partie des élèves et la cour où on est parti avec des élèves prendre une photo. Et cette photo a été transmise par voie radio VHF et un petit pocket radio dans l'autre pièce. Et ils ont pu la voir s'afficher en temps réel. Et on n'a pas utilisé le téléphone, on n'a pas utilisé Internet, c'est du moyen de communication direct, ils ont été très surpris. Et puis il y a eu l'initiation, comme tu disais, au Morse, parce que le Morse est encore pratiqué, ce qu'on appelle le CW. Et on a une installation qui permet d'apprendre et de s'initier. Et chacun a pu apprendre à taper son nom, et tous les élèves sont passés sur la machine, et ils ont tous réussi, ils ont tous eu un diplôme. Ça a été extraordinaire, ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Donc ça, c'est les activités qu'on fait pour sensibiliser. Toi aussi, tu en as fait une sur
Cergy, oui, bah, c'est ça, voilà. Il y a eu une autre activité donc sur l'école des terrasses à Cergy. Et là, par contre, donc un peu sur le même modèle, présentation d'images, mais également, ce qu'on a fait, c'est que je reviens sur l'activation QO100, donc avec le satellite, là où on est sûr, on va un peu plus sûr d'avoir des gens, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de propagation, pas certain, voilà. Avec le satellite, il y a toujours un petit peu de monde, et donc, du coup, on a par groupe de trois enfants, en fait, on leur passait le micro de manière à ce qu'ils puissent parler avec quelqu'un à travers donc le satellite. Donc ils ont fait 36 000 kilomètres, redescendu 36 000 kilomètres, donc presque 72 000 kilomètres de communication. Et c'est surtout lorsque la maîtresse est arrivée en courant à côté de moi en disant « mais là, il parle pas français !» Et donc on était avec un Suédois, voilà, et donc c'était vraiment...
C'est l'occasion de parler anglais.
C'est ça, mais on avait tout prévu. On avait prévu la planche française, la planche anglaise au cas où, parce qu'en effet, on ne sait jamais avec qui on va parler. Et donc voilà, et donc c'était vraiment assez impressionnant parce que les enfants avaient les yeux qui brillaient à la fin de cette...
Ça, matinée. C'est pour la RAM, mais sur le plan national, nous, on l'a pas encore fait encore à la RAM parce que ça nécessite une préparation d'un an ou deux. Mais il y a l'ARIS, hein, c'est-à-dire la relation avec la Station Spatiale Internationale. Plusieurs fois par an, il y a des écoles qui sont sélectionnées, il faut présenter un projet, pour questionner en temps réel, avec 10 questions, les astronautes à bord de la station. Mais ça nécessite de mettre en place un équipement, parce que ça passe pas par Internet et le téléphone, hein, c'est vraiment direct, un équipement d'émission, de réception, il y a toute une infrastructure, et puis de préparer avec les élèves, donc il y a certaines écoles. Il y a pas longtemps, ça s'est fait avec une école du 93 au Bourget, et ça a été un grand succès. Alors nous, on a été présents, on a été voir un peu comment ça se passe, mais on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça, parce qu'il faut aussi des bénévoles qui s'impliquent là, de ce fait.
Oui, puis on est peut-être juste pour finir, on n'est pas du tout sur le même type d'équipement. Voilà. Là, en fait, ce genre de satellite passe 10 minutes au-dessus de nous. Hein, donc, on n'a pas le temps de... Enfin, voilà, il faut être là à l'heure. Et puis, quand on ne l'entend plus, on ne l'entend plus.
Il faut le suivre, en plus.
Oui, il y a une contrainte de temps et puis être réactif.
Ouais, matériel également, pour être sûr qu'on a toujours le signal en permanence.
Vous allez nous présenter votre prochain événement qui aura lieu très bientôt, le 1er novembre au Château de la Chasse, et qui va proposer à tous et gratuitement de découvrir un peu plus la nature et la radio. Je vous propose de nous raconter un petit peu comment va se passer cette journée. Juste après avoir écouté Jump de Tila, on revient juste après sur IDFM. Original, girl, you want a replica? No. Smoothie, no regular, degular. No. Pretty for real, I'm pretty for my cellular. No. You don't say you're hot. No. They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Just miss me with the drama, unless you call me with the commas. Or DJ, turn the sound up, cause we bout to pour the rounds up. From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body banging like speaker. Ooh, sweating on my concealer. Skin tight, no millimeter. And my face can't make him feel weaker. But you know that my body is a healer. Ooh, I love to make it jump, 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 jump. Ooh, you know I love to make it jump, jump, jump. Dum, 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 back it up, up. You know I love to make it jump, 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 jump. You know I love to make it jump, jump, jump. Dum, 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 back it up, up. You know I love to make it. Only gotta make a call and I'm here. Don't no one to know your vibe, oh yeah. Listen to me, I put some carrots in your hair. Make this stitch
chop, I wanna put it in the ring. Wanna give D, I serve it like a dealer. You been out there when I'm digging in the middle. I'm back in Joe Bird, it couldn't feel no real. Her perfect picture in a Polaroid. She a trophy, you know what? Memphis feet feeling like a sirloin. Told her show her, take it, shit, she nest up. Have a play with you, it'll be a world war.
From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body banging like speaker. Ooh, sweating on my concealer. Skin tight, no millimeter. And my face can't make him feel weaker. But you know that my body is a healer. Ooh, I love to make it jump, 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 jump. Oh, you know I love to make it jump, jump, jump. Dum, 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 back it up, up. You know I love to make it jump, 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 jump. Oh, you know I love to make it jump, jump, jump. Dum, 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 back it up, up. You know I love to make it.
Original, girl, you want a replica?
No.
Smoothie, no regular, regular.
No.
Pretty for real, I'm pretty for my cellular.
No.
You know, say you're hot.
No.
Vous êtes sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations avec Franck et Aurélien de l'ARAM 95. Alors, le 1er novembre, jour férié, vous organisez une journée au château de la Chasse dans le Val d'Oise. Quel est l'objectif de cette journée, Aurélien ?
Ben, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire juste avant, on a parlé de la nature, enfin de pouvoir faire des activités en extérieur, on a parlé de la découverte auprès des écoles. On a voulu vraiment, au niveau de la RAM, mettre en lumière une journée de ce type-là, où on va pouvoir rassembler des gens qui sont à la découverte de la radio, des enfants, mais des adultes également, dans un milieu naturel. Et donc, c'est là que le projet est né. C'est comme ça que le projet est né. Donc, l'objectif donc de ce projet... Alors, tout à l'heure, pareil, on a parlé de radiogonométrie, de rechercher, on va dire, des perturbateurs ou des balises dans le cadre de la DRASEC. Bah là, ça va être un petit peu la même chose. C'est qu'on va aller positionner, en fait, on va cacher des balises dans une forêt. Et donc, les gens vont aller, sur une durée d'une heure, rechercher ces balises-là, essayer de les retrouver. Enfin, voilà, c'est l'objectif, en fait, de la course, tout en ayant également des parcours autour de la flore pour pouvoir découvrir un peu le lieu.
Oui, pour ceux qui, par exemple, voudraient pas participer à cette activité-là, il y aura effectivement des découvertes. Un groupe qui partira à la découverte des plantes, par exemple, locales, sur à peu près un parcours d'une heure, une heure et un quart, le matin et l'après-midi. Donc ça, c'est sur inscription sur place. Tandis que la topo radio, enfin la course d'orientation radio, là, vous pouvez vous inscrire sur Internet. Mais également, il y aura possibilité de s'inscrire sur place. Et puis, il y a des lots à gagner. Voilà, et c'est ouvert au public, c'est gratuit. Ça, on n'a peut-être pas dit. Voilà. Et puis, il y a aussi l'activité WWFF, dont on a parlé, l'activation qui se fera en même temps. Donc, vous pouvez venir voir, prendre le micro pour les jeunes, pour découvrir un petit peu ce que c'est que la radio.
Il y a un début d'âge pour pouvoir faire, par exemple, la course de radio orientation.
Après, tout dépend si on le fait vraiment en mode je veux gagner à tout prix ou si je suis également en mode découverte. Je dirais faut que les enfants puissent marcher sans difficulté dans la forêt. Donc bon, c'est difficile de donner un âge exact, j'aurais tendance à dire, mais
voilà. Je pensais plus il n'y a pas de compétences
non, après on ne demande pas de compétences scientifiques ou autres, puisque du coup on va mettre à disposition un petit récepteur, un casque. On expliquera donc comment fonctionne le récepteur, comment toucher les boutons pour entendre le signal plus fort, moins fort. Et donc les gens se dirigeront ensuite sur la zone de recherche et pourront travailler l'activité.
Est-ce qu'il faut s'inscrire sur cet événement ?
Alors, pas obligatoirement, mais si on veut avoir de la place, en tout cas, sur l'exercice de radiogoniométrie avec les enfants, oui, il faut s'inscrire. Si c'est des mineurs, ils s'inscrivent avec au moins un majeur, un parent. Ça sera des équipes de trois par heure, à peu près une heure de recherche. Nous, on a un certain nombre d'équipements, donc on pourra pas dépasser le nombre d'équipements. C'est pour ça qu'il y a, sur notre site internet, on vous donnera les références tout à l'heure, il y a un formulaire d'inscription, vous pouvez vous inscrire, et puis on garde quand même quelques places pour les inscriptions sur place.
Oui, parce que déjà c'est gratuit, donc je pense que toutes les personnes qui vont pas avoir l'information et qui vont venir se promener au château de la Chasse le 1er novembre, on va vous voir, j'imagine. Vous êtes au niveau du château.
C'est ça, on sera à ce niveau-là, sachant qu'il y a aussi des activités. Il y a effectivement la balade découverte des plantes, des roches, etc. Et puis peut-être aussi, donc il y a aussi la partie radio, mais peut-être aussi une activité découverte pour ceux qui auraient tout loupé, c'est-à-dire il n'y aurait pas de place. Ils arrivent là et tout est déjà parti. Bah, il y aura quand même des personnes qui vont venir avec des planches, des exemples de minéraux, expliquer un petit peu ce qu'on trouve sur le terrain voisin.
Bon, on vous espère beaucoup de curieux pour cette journée qui s'annonce très intéressante et très sympathique. On arrive à la fin de l'émission. Avant de se quitter quand même, déjà, de quoi vous avez besoin, la RAM 95 ? De radio amateurs, de nouveaux adhérents.
De radio amateurs, oui, mais même d'écouteurs, de personnes qui veulent s'intéresser à la radio ou simplement nous aider, participer. On a toujours besoin de bénévoles, ça c'est évident.
Oui, ça. Enfin, je pense que t'as très bien résumé. Après, on peut être écouteur sans spécialement être radio amateur. C'est une branche, hein, de façon du radio amateurisme. Donc voilà, tous les gens qui s'intéressent, on va dire de près ou de loin à cette partie, sont les bienvenus. Et puis, comme le disait Franck, les bras manquent peut-être des fois. Donc du coup, même si on n'est pas du tout radio amateur, que ça nous intéresse pas, mais on veut rejoindre une association pour le bien commun, eh ben la porte est ouverte.
Bah oui, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Cécile de la PEP. Donc l'association des parents d'élèves d'Aubonne qui nous a bien soutenus dans ce projet et c'est une association partenaire. Je remercie aussi le Crédit Mutuel qui nous a soutenus un petit peu financièrement aussi parce qu'on a eu notre première subvention, c'était pas nos habitudes parce que la cotisation elle est minime, elle est 23 euros par an et donc c'est pas toujours évident.
Merci beaucoup Franck Aurélien d'être venu nous présenter votre association de radio amateur. Comment on peut vous contacter ?
Alors, le plus simple, tout le monde, je crois, connaît Google. Vous tapez ARAM 95, vous allez nous trouver. Hein. ARAM 95 comme Association des radioamateurs du Val-d'Oise. Sinon, on a un site internet, c'est aram95.r-e-f.org. Vous pouvez nous adresser un email aussi, aram95.f4kkt@gmail.com. Je peux aussi donner mon numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent, 06 50 59 69 51. Et si vous êtes déjà équipé, alors bien sûr, vous pouvez venir participer à une réunion mensuelle ou en visio, qu'on vous invite déjà pour découvrir. Et on a ce qu'on appelle les QSO hebdomadaires, donc c'est nos réunions radio hebdomadaires, ça a lieu sur la voie VHF sur 145,450 MHz, le jeudi soir à 21h et le dimanche matin sur 28,950 kHz en USB à 9h30 le dimanche matin. Donc ça c'est pour ceux qui ont les moyens de nous écouter. Sinon on est aussi présent sur la semaine des associations qui est fin juin et la journée des associations à Aubonne qui est en septembre. Voilà, en tout cas ARAM 95 sur Google et c'est fait.
ARAM, donc ARAM pour être sûr en termes de...
Merci beaucoup, j'étais ravie de vous recevoir.
Merci et surtout à vous de nous avoir invités.
Un grand merci également à Francky pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.